blanche.
40 nuances de Next.
Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathiot et Thomas Benzazan.
Ils sont 40. 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là? À quels enjeux font-ils face? Quels sont les ressorts qui les ont forgés? Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche, et avec mon compère Olivier Mathiot, cofondateur de Price Minister, DG du Fonds 2050, président de The Camp et vice-président de France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Next 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprises, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madinès, France Digital, La French Tech, Oracle et Neuflize OBC. Vous en voulez plus? Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Il nous a promis un épisode 100% zéro bullshit. J'évoque Vincent Huguet, le cofondateur et dirigeant de Malte. Alors, on est voisins entre les studios et les bureaux de Malte à Paris, mais il a fallu qu'on se retrouve, et c'est un très bel endroit, à Viva Technologies avec Vincent et avec mon compère de toujours, Olivier Mathiot. Bonjour, Olivier.
Salut Thomas, salut Vincent, merci de te joindre à nous. Tu as des nouveaux arrivants dans la grande famille du Next 40. Ouais. C'était, nous, on avait commencé au début du Next 40 et pendant le confinement, on s'est dit bah, il faut faire, tu vois, utiliser ces exemples en fait, que sont les entrepreneurs à succès. Et on savait que tu étais un entrepreneur à succès, mais on est très sélectif. Il fallait que tu rentres dans le Next 40 pour qu'on puisse t'inviter. Alors, je me permets peut-être de faire une petite intro qui présentera bah, qui tu es et qui est Malte. Hein. Malte, en gros, c'est une plateforme qui... adresse la question du marché du travail à travers l'offre des freelances. Le marché des freelances, j'ai regardé, je ne sais pas si les chiffres sont encore bons, mais c'est 42 milliards d'euros en France, 355 milliards d'euros en Europe et plus de 600 milliards d'euros aux États-Unis. Donc on voit que... Alors, je ne sais pas si les chiffres sont encore plus
ouais,
gros
c'est
maintenant.
C'est
énorme. Alors qu'est-ce que vous faites? Bah, vous créez finalement un outil de mise en relation entre cette population et les entreprises. Il y a eu un tour de table de 80 millions d'euros qui a été annoncé en 2021 avec... Des actionnaires aussi prestigieux que Goldman Sachs et Eurazeo. Moi, je connais bien aussi parce que je suis dans la grande famille Isaïe, donc on est également actionnaire à travers le fonds Isaïe, qui est un des fidèles actionnaires de
Vous êtes actionnaire chez tous nos invités, j'ai l'impression.
De tous les grands succès et surtout des gens sympathiques et des entrepreneurs ambitieux, mais qui savent rester humbles. Alors, il y a plein de questions qui se posent, hein, notamment des questions de droit du travail, des questions juridiques, des questions autour de la croissance et de l'hypercroissance. Il y a beaucoup de questions qu'on pourra aborder parce que c'est aussi voilà, une boîte qui marche bien sur une grande vague hein, qui est celle de l'explosion des travailleurs non salariés, mais il y a aussi la capacité à proposer une expérience utilisateur, des tarifs, des mises en relation, de la confiance aussi hein, entre les talents et les entreprises. Je crois que vous revendiquez que 80% des groupes du CAC 40 sont des clients de Malte. Alors j'avais l'année dernière 250 000 freelances, je ne sais pas combien vous en êtes aujourd'hui.
350 000 maintenant.
Ah, c'est ça l'hypercroissance.
C'est plus. C'est
350 000.
Bah, c'est surtout qu'on présent, est sur plus de pays en Europe.
Ouais. Vous êtes présent aussi, cette plateforme internationale, présent en Allemagne. Et je crois que toi-même, tu vis à Munich.
Tout à
Est-ce
fait.
Est-ce que oui. c'est encore le cas? Donc tu pourras nous expliquer cette expérience, nous la raconter. Mais aussi, je crois, il y a Espagne, Belgique. Vous annoncez les Pays-Bas et l'Italie. Je n'ai pas vu si c'était déjà fait. Est-ce que c'est...
L'Italie, non. Les Pays-Bas, c'est en lancement. Et bientôt le UK.
Bravo. Donc, objectif affirmé, le milliard d'euros de volume d'affaires pour 2024. Alors, est-ce que c'est toujours l'objectif? Je crois que vous avez dépassé les 200 millions d'euros en 2020. Donc, c'est, voilà, sky is the limit, comme on dit. Ça serait intéressant aussi de parler du changement de marque. C'est un autre petit sujet qu'on se note par derrière nous, puisque au départ, c'était pas le nom Malte qui était le nom d'origine de cette plateforme. Et c'est toujours marrant de voir bah, comment est-ce qu'on en arrive à changer de marque et surtout pourquoi.
Alors pour rentrer dans l'histoire de la marque et évidemment ensemble on va essayer de comprendre bah, toutes les marches qu'il a fallu gravir jusqu'à évoquer les résultats actuels dont vient de parler Olivier. Puis après on s'interrogera sur l'homme derrière l'entreprise et ce qui t'a construit, ce qui a fait l'entrepreneur que tu es. Et pour ouvrir le bal, t'as choisi une chanson de David Bowie, Heroes, que je propose d'écouter. Tu nous diras pourquoi t'as choisi ça. I wish I could swim.
C'est moi aussi une de mes chansons préférées, donc c'est une chanson qui touche. Et puis en plus, quand on va regarder le clip, on voit le jeune David Bowie, qui est un peu placide, très sans mouvement, enfin il y a une sorte d'émotion qui passe. Et qui sont les héros? Les héros, c'est les freelances, c'est toi, c'est un hommage à tes héros de ton enfance?
Non, les héros, là, c'est la musique qu'on passe à la fin de tous nos Hollands.
D'accord.
Alors, pas depuis le début, pas depuis 2013. On a toujours fait des Hollands avec toute la boîte. Maintenant, c'est encore plus important qu'avant parce qu'on est 450. Et chaque fin de Hollands qu'on fait tous les mois, on passe cette musique et on a choisi cette musique. Je ne sais plus comment c'est venu. Alors d'abord, c'est une musique que j'aime. Mais à côté de ça, il y a ce côté, si tu veux, nous, on a dans nos valeurs, on a un des termes, c'est « ambition is our journey ». On pense que l'ambition, tu vois, c'est pas arriver à une levée de fonds, c'est pas arriver à un chiffre, etc. C'est justement quelque chose où à la fois il faut être plus humble et il faut y aller par étapes, tu vois. Et on aime bien dans le côté heroes, c'est se dire, ok, nous, en tant qu'entreprise, en tant que malteur, on est des heroes, mais surtout, we can be heroes. On peut toujours s'améliorer, tu vois. C'est première chose. Et deuxième chose, je pense que là, en plus, cette année, on vient d'acheter une boîte qui est à Berlin, Comatch. We Can Be Heroes, ça raconte une love story qui se passe derrière le mur à Berlin. Donc il y a un petit clin d'œil aussi maintenant qui est encore plus vrai qu'avant pour la boîte.
Le héros, c'est souvent celui qui est capable de faire des choses que les autres, le commun des mortels, ne sont pas capables de faire. C'est le sentiment que vous avez à peu près sur tous les sujets que vous adressez avec Malte.
Bah, on est sur, tu l'as dit, un marché qui est énorme, super ambitieux. Moi, je me souviens, lorsqu'on a commencé, il y avait beaucoup d'investisseurs qui disaient, mais c'est presque trop gros, en fait, ce marché. Il y a déjà d'énormes acteurs, il y a des gens aux États-Unis qui ont essayé. Pourquoi vous allez réussir? D'autres qui ont cru en nous, à l'inverse, se sont dit, bah oui, heureusement, enfin des entrepreneurs français qui se disent, tiens, on peut aller sur un marché qui est énorme, on peut le transformer. Mais je pense qu'effectivement, pour attaquer quelque chose comme ça, paradoxalement, il faut le faire avec de l'humilité et se dire, il faut y aller par étapes.
Et justement, pardon, parce que Olivier tout à l'heure parlait de la confiance et de la création de la confiance. On en parlait aussi tout à l'heure dans leur série avec Fred Mazzella. Mais il y avait d'autres acteurs. J'imagine qu'il a fallu la créer, cette confiance, pour embarquer d'un côté les clients, de l'autre côté les freelances. C'est quoi tous les problèmes qu'il a fallu résoudre et qui fait que vous avez réussi là où d'autres ont échoué?
Oh bah, la liste serait longue, mais je parlais, tu vois, par exemple, de convaincre des investisseurs. Mais bien avant ça, effectivement, ça a été d'aller sur le terrain et de convaincre des clients et des freelances. Et au départ, moi, je crois beaucoup à un terme qui a été, tu sais, utilisé au début d'Airbnb. Peut-être qu'on parlera un peu de notre historique. Et j'ai beaucoup été inspiré par Airbnb. Et tu as ce conseil que Paul Graham du Y Combinator a donné à l'équipe Airbnb, c'est « Do things that don't scale ». Tu sais, on parle de scaler en permanence, d'automatiser les choses dans notre milieu. Et paradoxalement, ils sont allés sur le terrain, ils ont rencontré leurs hôtes, ils ont pris des photos, ils se sont rendus compte qu'en prenant les photos des appartements, les appartements qui avaient des belles photos fonctionnaient 7 fois mieux que les autres. Et finalement, ils ont réussi à scaler des choses non scalables. Et moi, pour l'histoire, j'étais en 2009 un des premiers hôtes d'Airbnb sur Paris. Lorsque l'équipe, ils étaient 7 à l'époque, est venue pour la première fois en Europe, ils ont dormi chez moi. Parce qu'ils n'avaient pas d'argent, ils ont contacté leurs hôtes, ils sont venus dormir chez moi. Et ce côté, justement, marketplace, qui à l'époque, une marketplace devait être low-touch, tu vois, type Amazon, qui va sur le terrain, qui construit des choses. Donc, je te raconte ça parce que, au départ, en fait, on a juste raconté notre histoire, où on voulait aller, quelles étaient un peu, justement, la différenciation par rapport aux plateformes qui existaient, en rencontrant énormément de freelance. Et on l'a fait, tu vois, très progressivement, un café par café, tu vois. Et puis ces gens-là ont parlé de nous, etc. Donc ça a été vraiment un travail de terrain de convaincre au départ.
Et donc, est-ce qu'une belle photo de freelance vend mieux qu'une moins belle photo de freelance?
Bah, tu crois pas si bien dire. Je sais pas si... Alors, on ne vend pas des gens pour leur physique. En revanche, avoir une photo pro est super important. Et on a toujours fait, depuis le début, on s'est rendu compte, au départ, on a commencé, il nous fallait des photos pour la homepage. Et on s'est rendu compte que faire des photos, une session de photos avec un vrai photographe, nous donner une occasion de rencontrer ces freelances, de créer un vrai lien avec eux. Et on a multiplié ça, et maintenant, je ne sais pas combien on fait de photoshooting par an sur les différents pays, mais c'est vraiment important.
Et alors, si on pense un peu au marché, on a dit qu'il était énorme, j'aimerais bien poser la question, moi, un peu de la poule et de l'œuf. C'est-à-dire, est-ce que le marché se développe parce que la technologie, celle de Malte, celle de quelques autres plateformes peut-être qui existent aussi aux États-Unis, a rendu possible, liquide, fluide, cette question de confiance et de mise en relation? Ou est-ce que, en fait, c'est aussi une tendance qui est la tendance du marché, du travail non salarié, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie d'avoir leur indépendance et de ne pas être aliénés par la relation d'entreprise et le contrat de travail?
Je dirais qu'il y a un peu trois étapes. En 2008-2009, dans beaucoup de pays en Europe et particulièrement ici en France, des statuts comme le statut auto-entrepreneur sont nés. Donc le fait que ce soit facile de se lancer, de gérer ses taxes, etc., a fait une première vague. Ensuite, je pense que nous, effectivement, surtout en France, on a contribué, donc à partir de 2013, à rendre visibles ces freelances. Parce qu'on était la première plateforme qui était vraiment ouverte, où on voit les profils des freelances, où les freelances peuvent voir d'autres freelances et se comparer à eux. Donc on a aidé les gens à se dire, oui, d'autres le font, ils ont ce profil-là, ils me ressemblent et je peux le faire. Et là, on a une troisième vague qui est, à partir de 2020, les gens étaient chez eux, ont bossé à distance, se sont posé beaucoup de questions sur leur carrière. Et on a vu sur 2021 une explosion incroyable. Donc une partie, c'est notre croissance, mais une grande partie sur 2021, c'est, tu vois, entre Q1 et Q4 de l'année dernière, il y a deux fois plus de nouveaux inscrits par mois et des fonctions qu'on ne voyait pas en freelance qui arrivent en freelance parce que les gens pensent autrement.
Donc c'est intéressant. Je voulais en arriver justement à cette question du Covid, parce que nous, on a lancé aussi le podcast 40 nuances de Next en mode remote. Donc le remote et la possibilité de ne pas tous être dans le même bureau, ça a changé le rapport au travail, à l'entreprise, au lieu physique, à plein de choses, à la flexibilité, etc. Mais finalement, est-ce que tu considères là que c'est plutôt un marché d'offres ou un marché de demandes? Ça revient à ma question un peu de la poule et de l'œuf, mais pour en vraiment rentrer dans la compréhension, puisque c'est ça, hein, une marketplace, c'est faire se rencontrer l'offre et la demande. Est-ce qu'il y a eu de plus en plus d'offres parce que, Covid aidant, les gens avaient envie de changer de vie, ou est-ce que c'est parce qu'il y avait le Covid et du coup, les entreprises avaient besoin de flexibilité, etc.? Tu vas me dire que c'est peut-être les deux, mais j'aimerais bien comprendre.
C'est avant tout un marché d'offres, enfin dans le sens où nous, quand on lance un pays, on démarre d'abord par créer la communauté, donc créer le côté supply, si on utilise les termes de marketplace. Alors je pense que c'est vrai pour beaucoup de marketplaces, mais c'est d'autant plus vrai chez nous parce qu'on est sur des compétences pénuriques. On manque de, je ne sais pas, 1 million d'ingénieurs, je crois, en Europe par an, tu vois. Donc on est sur un marché très, très pénurique où à partir du moment où tu as la communauté, tu as la supply, tu la structures, tu l'organises et tu la rends accessible à la demande. La demande, je ne dirais pas qu'elle vient facilement. Tu vois, on a des sales, on fait du marketing, etc. Mais finalement, le plus important est d'avoir la communauté derrière.
Vincent, je reviens sur la question initiale. Est-ce que quand on est au Next 40, en tout cas quand on regarde les entreprises du Next 40, on voit des réussites, mais évidemment une réussite, elle commence petit et avec des problématiques très concrètes à résoudre. Sur Malte, c'était quoi les enjeux pour adresser le marché, pour convaincre, là pas forcément les investisseurs parce que c'est presque un autre sujet, mais pour aller convaincre les parties prenantes de suivre ce projet et peut-être pas d'aller sur une plateforme concurrente. Je reviens sur cette idée de ce que les autres n'ont pas réussi à craquer.
Je crois qu'au début, ça a été, comme je disais, de convaincre. Alors d'abord, le côté supply, donc les freelances, de se dire oui, on n'est pas la énième plateforme internationale où on va vous mettre en concurrence avec des gens du monde entier. Il va falloir... voilà, donc on a expliqué ça. Ensuite, on a fait la même chose côté client.
Ouais, pardon, j'allais te demander, la question c'est le comment. Enfin, moi ce qui m'intéresse c'est le pourquoi, ce qu'il a fallu craquer, comment vous avez fait. Au-delà d'expliquer, j'imagine que tout le monde avait envie de leur expliquer que c'était une super plateforme qui était faite pour eux.
En fait, le comment, si tu veux, je parle un peu plus produit, ce qu'on a fait c'est que toutes les plateformes qui existaient à l'époque étaient un peu calquées sur le modèle du job board. On se disait le freelancing c'est du RH et donc on poste une offre et des gens vont venir et enchérir ou un système d'enchères inversé sur ces offres. Le problème de faire ça, c'est que tu attires des gens qui sont prêts à tout, à prendre un salaire très très bas, enfin un revenu très très bas pour des missions. Et nous, on a fait l'inverse, c'est-à-dire là aussi peut-être l'inspiration d'Airbnb et d'autres, c'est-à-dire qu'on a créé une search marketplace, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte que c'est le client qui doit savoir ce qu'il veut, donc il doit avoir une certaine maturité. Il doit dire, voilà, je cherche un développeur Android, je cherche le développeur Android plutôt à Lyon, et je vois des profils et je vais les contacter et je vais leur pitcher mon projet et mon entreprise. Et donc on est parti vraiment du talent, on est parti du freelance et en se disant c'est eux qui sont pénuriques, c'est pas le client. Et c'est ça, je pense, qui a fonctionné et qui a fait que les freelances se sont sentis dans un écosystème où on les valorisait. Les freelances qui sont chez nous ne sont pas sur ces plateformes globales où ils sont mis en concurrence avec des gens du monde entier, où il y a un système d'enchères inversées. Ils n'ont pas intérêt à le faire. Ils sont tous les jours appelés par des recruteurs. Donc, ce côté premium, quelque part, ils l'ont apprécié tout de suite de notre vision.
Tu vois d'autres sujets comme ça que vous avez réussi à craquer, que ce soit sur le produit ou sur la prof, hein, c'est... Pour le coup, c'est ultra pratico-pratique et ouais, exportable pour nos business à chacun, je trouve.
Oui, ben, je pense qu'on a une vision tout de suite hybride des choses. Tu vois, dès le début, on a pensé freelancing. Tu vois, tu parlais de travail à distance. Évidemment, freelancing égale souvent des gens qui travaillent de chez eux. Mais en fait, on a compris très rapidement en rencontrant des freelances, en s'associant aussi, les deux autres cofondateurs étaient des freelances, que c'était des gens qui avaient ce modèle hybride. Déjà, tu sais, maintenant, on parle de future of work ou de present of work qui est hybride. Nous, on voyait et on travaille comme ça depuis longtemps. Je pense qu'on a besoin des deux. Donc, on a compris que ce côté local ou nearshore, on va dire, était quand même super important. Et une chose qu'on a faite aussi dans cette vision un peu hybride, c'est de se dire, OK, on est une plateforme, on est un produit, mais ça ne suffit pas. On est en B2B, on parle de people, on a besoin d'aller voir les gens. Donc, j'en parlais avec les freelances, mais moi, j'ai passé mes premières années à aller voir énormément de clients. J'allais voir n'importe qui, des petites boîtes de 10 personnes et on évangélisait comme ça avec les premiers sales. Et puis rapidement ensuite, le système de marketplace, l'œuf et la poule, le truc s'est lancé, l'AdWords, etc. Après, on avait du volume qui venait naturellement. Et puis des grands groupes sont venus. Et rebelote sur les grands groupes, on a dû aller les voir, on a dû constituer une équipe commerciale. Donc on n'est pas resté avec cette vision marketplace égale uniquement produit égale tech. Mais ce modèle hybride, un bon produit, mais aussi avec une équipe sales très forte.
Il y aura énormément de questions que je me pose sur le marché, donc je ne sais même plus par lesquelles commencer. Mais il y a une question que je me pose, qui est celle finalement aussi de... Est-ce qu'en fait, une plateforme de... Je parlais de confiance, on va générer de la confiance pour que les freelances s'inscrivent et se sentent bien. Une plateforme, la confiance aussi pour les entreprises par rapport à la qualité des profils présentés, parce que c'est important. Après, on va confier une mission à quelqu'un, et il faut que ça se passe bien, etc. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas un effet de cristallisation aussi toujours autour des meilleurs? Est-ce qu'il n'y a pas une notion de... Voilà, il y a un peu les laissés pour compte qui vont essayer de se lancer dans le freelance, ceux qui ont déjà un profil constitué, une réputation, etc. Et comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait une forme d'équitabilité, de justice?
Ouais, bah, c'est un vrai enjeu, c'est pas simple et c'est quelque chose sur lequel travaille notre équipe data un peu au quotidien. Maintenant, il faut trouver le bon compromis entre effectivement récompenser ceux qui créent une réputation et qui génèrent du chiffre d'affaires via la plateforme. Qui sont hyper, hyper rassurants aussi pour le client et qui, quelque part, c'est là où le modèle est hyper vertueux pour ces freelances-là. C'est des gens qui vont avoir commencé il y a quelques années à 300 euros au jour, qui vont peut-être être aujourd'hui à 600 euros au jour parce qu'ils ont développé une réputation sur Malte. Et à côté de ça, alors des fois, ça se fait naturellement parce que certaines catégories... Il ne faut pas voir les 350 000 freelances comme ça en moyenne. Il faut regarder catégorie par catégorie. Sur certaines catégories, sur certaines localisations, il y a de la pénurie. Donc finalement, assez rapidement, les gens qui ont déjà de réputation vont être rapidement pris, un peu comme les superhosts sur Airbnb, si je devais faire une comparaison. Et donc, ils vont devoir aller voir des profils plus nouveaux. Donc tout l'enjeu, c'est créer effectivement cette confiance sur les profils un peu nouveaux, ou des profils nouveaux, ils ont des moyens de créer la confiance sans avoir fait de mission, en allant demander des recommandations des clients précédents, des choses comme ça.
On parle des débuts, du coup, de la boîte. Il y a souvent cette phrase dans les équipes, ça commence à prendre. C'est quoi le moment où vous vous êtes dit, ça a pris? Est-ce qu'il y a eu un moment, un tournant tangible qui fait que tu te dis, là, ça y est, on a galéré, on a craqué ça. Mais à chaque fois, c'est jamais suffisant. Tu disais que c'était jamais fini, que we always can be heroes, donc c'est jamais le cas. Mais est-ce qu'il y a quand même un moment où vous vous êtes dit, bon là, au moins pour une fois, on va sortir la bouteille de champ ou de champomis?
Ouais, la première fois, déjà, c'est la première transaction. La première fois que quelqu'un, alors au début, on avait des systèmes de paiement beaucoup moins évolués, qu'une entreprise a sorti une carte bleue pour payer quelqu'un qui allait bosser chez eux pour quelques jours. Tant que quelqu'un n'allait pas le faire en premier, on n'était pas du tout sûr que ça arriverait. Et ça, c'était en juin 2013, donc tu vois, il y a 9 ans. Et là, ça a été un premier cap. Et après, ça a été finalement très progressif et en même temps très rapide. Et je crois que les moments clés, c'est aussi les levées de fonds, pas pour la levée de fonds elle-même, mais si tu veux, ça marque un palier dans une boîte où des boîtes comme les nôtres, justement, le but de lever des fonds, c'est d'aller plus vite, mais c'est-à-dire que tu as une croissance qui n'est pas linéaire, tu as une croissance par palier. Et à chaque fois, si tu veux, ce qui est impressionnant, c'est quand tu es 30 et que tu passes à 60 au bout de 6 mois ou au bout d'un an, quand tu doubles quasiment le volume d'affaires, le chiffre d'affaires, mais aussi la taille de la boîte, c'est ces moments-là où on se rend compte, tiens, on a passé une étape.
Est-ce que vous avez une façon de pouvoir être aussi un bon observateur, j'imagine, et d'être à l'écoute du marché du travail, c'est-à-dire est-ce que c'est un driver de la croissance, prendre des décisions dans les roadmaps des nouvelles catégories. Enfin, au départ, on a mal, pour moi, c'est principalement des gens dans le digital, alors des développeurs, des designers, des UX, etc. Donc tous ces métiers du digital qui, justement, ont pour eux d'avoir une forme de pénurie. Hein, donc forcément, ça crée un rapport de force qui est en faveur de l'offre, d'une certaine manière. Mais est-ce que du coup, donc il y a probablement quelques métiers évidents, et puis après, quand on commence à vouloir se développer, aller chercher cette croissance, est-ce qu'il y a des façons de capter les signaux faibles pour aller chercher la bonne offre, qui sera peut-être le futur nouveau métier qui va créer de la tension?
Oui, alors justement, on a énormément de data. Donc on a 350 000 freelances qui eux-mêmes ont des profils assez complets. On a plusieurs centaines de milliers de recherches par mois. Et ces data, en fait, on les partage, on les compile. Chaque année, on fait une étude qu'on fait depuis 2 ans avec le BCG sur savoir qui sont les freelances, dans quel métier, etc. Et on a une autre étude qu'on fait qui s'appelle spécifiquement sur la tech, qui s'appelle Maltech Trends, qui est super intéressante parce que ça nous permet de communiquer auprès de notre communauté, mais aussi auprès de clients, et dire, évidemment, par exemple, les recherches les plus importantes, ça va être Java, Python, etc., sur des métiers tech. Et en même temps, on voit sur les profils des freelances et sur les recherches, on commence à voir les tendances et les croissances fortes de choses comme, je sais pas, il y a 2 ans, on a petit dit, tiens, Vue.js était en train d'arriver, des choses comme ça. Ce qui est super intéressant sur le marché du travail, j'en parlais un peu tout à l'heure, c'est que l'année dernière, on a vu, alors effectivement, historiquement, les freelances, c'est beaucoup des gens de la tech ou des métiers de la communication. Des gens qui étaient déjà dans la flexibilité, c'est-à-dire ils étaient en ESN ou en agence de com, ils se disent, bah, finalement, j'étais déjà en mode projet, je vais le faire, mais en freelance. Et là, l'année dernière, il y a eu un changement. On voit les fonctions support de l'entreprise, donc des fonctions procurement, enfin achat, RH, légal, etc., qu'on ne voyait pas du tout en freelance, qui commence à se mettre en freelance. On a une surcroissance, on a une croissance plus élevée sur ces métiers-là l'année dernière. Donc on voit que le freelancing, je ne sais pas si ce sera pour tous les métiers, pour tout le monde, je ne dis pas ça, mais en tout cas, il est en train d'arriver sur... Et les entreprises sont aussi en train de l'accepter, de se structurer pour ça, de faire des appels d'offres dédiés. Et donc il y a vraiment une prise de conscience là, depuis l'année dernière sur le freelancing, et pas un épiphénomène, mais quelque chose qui va rester.
Il y a une question aussi autour du marché des freelances, qui est la question du... En gros, du droit social, hein, du droit du travail, etc., qui au départ a été plus pensé dans un rapport au temps. Hein, la valeur est associée au temps du travail, la semaine de 35 heures, la journée de 8 heures, etc. Et donc, le freelance, c'est aussi cette flexibilité par rapport au temps de travail. Donc, comme tu disais, le mode projet, hein, c'est plus... Il y a un objectif, mais bon, on paye quand même du temps. On paye un tarif horaire ou un tarif jour, des jours hommes, etc. Et est-ce qu'il y a des choses à réinventer là-dedans, dans le droit du travail, sachant que Quand on parle de profils très qualifiés, ils sont plutôt dans un rapport de force. Mais il y a aussi peut-être des profils plus fragiles, parce que moins éduqués, parce que machin, etc., mais qui pourraient finalement en profiter davantage. Et est-ce que du coup, le système social français permet de préserver un peu, comment dire, le safety net, le filet de sécurité, pour ne pas créer une précarisation trop élevée?
Il y a des choses à inventer, je vais en parler, mais il y a surtout des choses à communiquer. C'est pour ça qu'on fait cette étude chaque année. Pour expliquer que, un, les freelances, c'est pas des gens qui sont précaires, justement, parce qu'ils font... C'est pas des gens qui font ça par défaut. 93% des gens qui font ça ont été salariés avant et ont fait un vrai choix. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on communique énormément, parce qu'il y a cette image dans certaines administrations, certaines entreprises, de, voilà, ils font ça parce qu'ils n'ont pas trouvé de job, ce qui est totalement faux. Donc... Je pense qu'il faut d'abord différencier, et nous on essaye de le faire tout le temps, ce qui est la talent economy de la gig economy. Rien à dire, c'est pas mon sujet, sur la gig economy, elle fonctionne comme elle fonctionne parce que voilà, le modèle ne fonctionnerait pas autrement, mais une plateforme comme la nôtre n'a rien à voir dans le sens où c'est le freelance qui va choisir son prix.
Je me permets peut-être juste de traduire, la gig economy, c'est l'économie des petits jobs, hein, pour le dire. Enfin, c'est le terme américain pour dire les petits jobs, donc, qui sont parfois un peu effectivement dans le précaire. Les petits services comme le babysitting, ça peut en faire partie, etc. Quoi.
Ouais, et donc il y a eu, avec l'arrivée de grandes plateformes américaines et autres, il y a eu tout de suite cette prise de conscience des pouvoirs publics. Ouh là là, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est dangereux, etc. Donc on a passé beaucoup de temps à communiquer pour dire non, les freelances sont des gens, d'abord ils existaient avant, ils sont nombreux, ils sont très contents d'être freelance, ils l'ont choisi. Ensuite, dans les choses améliorées, bien sûr, tout n'est pas rose. Il y a des choses en particulier, je pense, le principal sujet finalement, c'est pas tant la protection sociale, parce qu'il y a beaucoup de choses en France. C'est plutôt le sujet de l'accès au crédit, voire l'accès à la location. Ouais. Donc l'immobilier, c'est très très compliqué, comme pour n'importe quel entrepreneur. Même si vous avez 2 ans d'être développeur qui facture 100 000 euros par an, malheureusement, vous avez une sécurité quelque part des revenus, vous savez vous adapter à différentes situations, ce qui n'est pas forcément le cas d'un employé. Mais une banque, par la régulation, par habitude, ne peut pas vous financer un crédit. Et ça, c'est un problème. On a certains freelances qui reviennent dans le salariat juste pour prendre un crédit et puis ils reviennent freelance après, ce qui est un peu ridicule.
Tout à l'heure, tu évoquais ce moment où vous avez signé, enfin, où pour la première fois, une entreprise a sorti sa carte bleue pour utiliser votre service. Je m'intéresse souvent à la question du pricing, qui est un vrai sujet pour une entreprise. Comment vous l'avez constitué? Est-ce que ce pricing, il a évolué? Ou est-ce que finalement, ça a été assez simple à définir?
Non, il évolue en permanence. Par contre, il y a une constante, c'est qu'on a toujours été sur un modèle classique de marketplace avec une commission. Il n'y a pas de setup fee, il n'y a pas de paiement à l'usage, il n'y a pas de coût fixe.
Alors du coup, qu'est-ce qui a évolué? C'est simplement le pourcentage de la commission?
Oui, le pourcentage avec une dégressivité de plus en plus forte côté freelance, des services de plus en plus importants, parce que ce qu'on n'avait pas... je dirais forcément envisagé au départ, c'est qu'au départ, on a été évidemment avec des early adopters, plutôt des startups, des PME, et puis ils sont rapidement en fait venus des grands groupes. Et ça aussi, ça a été un moment, tu parlais des moments marquants, ça a été de voir que oui, LVMH, alors c'est pas LVMH en tant que groupe, c'est quelqu'un du studio design de Sephora qui se dit, mais bah, nous aussi, on est une petite équipe, on veut de la flexibilité, on peut avoir envie de travailler avec des freelances. Et puis, on est remonté sur ces grands groupes et aujourd'hui, on travaille de plus en plus et c'est une énorme partie de nos revenus. On a dû s'adapter sur les process, sur le paiement à travailler avec
ces gens-là. Et alors, du coup, quand vous allez sur ces comptes, ces grands comptes, on parlait d'un pourcentage important du CAC 40, vous êtes en contact avec d'autres qui n'étaient pas forcément des plateformes technologiques, mais qui sont un peu les vieux métiers du numérique, qui sont les SS2I notamment. Donc, est-ce que vous êtes devenu une SS2I? Est-ce que vous êtes, enfin, tout en étant une SS2I, ça c'est pas une insulte, hein, c'est une SS2I moderne, version agile. Est-ce que c'est ça votre nouveau marché d'une certaine manière?
Je dirais qu'aujourd'hui, avant ils nous voyaient comme vraiment un épiphénomène, vraiment la long tail de la long tail, on va dire. Aujourd'hui, oui, c'est quelque chose où on est une vraie alternative. Donc ils nous voient différemment, dans le sens où c'est des freelances et pas des employés. Et ils font de plus en plus des appels d'offres dédiés sur le sujet freelance. Parce qu'ils ont compris que 20 à 30% des gens, en particulier dans la tech en Europe aujourd'hui, étaient freelance. Donc, ils devaient structurer, en fait, tu vois, les entreprises du CAC 40, c'est des boîtes qui dépensent entre 500 millions et 1 milliard à l'année en prestations intellectuelles. Donc, tout ça est organisé par un département, qui est généralement le département achat. Il y a une équipe qui s'occupe de ça. Ils vont référencer des fournisseurs. Et évidemment, au début, on était trop petits. On avait, ils avaient une dizaine de fournisseurs classiques SS2I, les gros du marché. Et nous, on essayait de rentrer un peu comme on pouvait. Et aujourd'hui, on fait partie. On a montré patte blanche. On a ce label, on a cette taille qui fait qu'on fait partie des fournisseurs référencés.
Tu évoquais tout à l'heure ce que vous n'aviez pas prévu. Et est-ce qu'au contraire, au lancement, il y a des choses que vous imaginiez et qui finalement, par la force des choses ou par opportunité, ont été complètement délaissées?
Bonne question. Je pense qu'il y a des choses qu'on faisait au début et qu'on a arrêté par choix. Au début, on faisait des choses autour de la formation, tout simplement parce que on a commencé en bootstrap, hein, on a commencé en 2013. On n'avait pas de financement comme on l'a depuis 5 ans, aussi facile. Donc on allait chercher l'argent là où on pouvait le trouver. Et une des choses qu'on faisait, c'est on s'est dit, voilà, dans cette communauté, on a d'excellents experts. Hein, souvent, les meilleurs formateurs sont des freelances. On a des gens qui veulent se former pour se maintenir à jour. Et donc on faisait des formations, ce qui nous permettait de prendre une commission là-dessus, de nous rémunérer. On a arrêté ça parce qu'il y a un moment, je pense que c'est très très important de rester focus et de se dire, voilà, le marché est déjà gigantesque sur ce qu'on fait, concentrons-nous là-dessus. Après, peut-être qu'un jour, on y reviendra.
ou comme vous auriez pu vous dire, on a une communauté, on va lui vendre tout un tas de services, y compris peut-être des formations d'ailleurs.
Oui, alors on a toujours fait des choses pour cette communauté, sans les vendre en fait. On ne gagne pas d'euros là-dessus, mais on a toujours eu plein de partenaires, il y en a de plus en plus qui sont venus nous voir en disant voilà, cette communauté m'intéresse, nous on fait de la formation, on fait de la mutuelle santé, on fait des banques, etc. Donc on a toujours fait, on a toujours eu des partenaires qu'on proposait avec une offre dédiée auprès de notre communauté de freelance.
Alors ben, nous, ce qu'on aime aussi sur le parcours de l'entrepreneur, c'est de parfois de s'attarder un peu sur la question de la levée des fonds, puisque en général, dans l'Ex 40, hein, c'est un des critères, c'est qu'il faut avoir levé de l'argent, donc a priori c'est un acquis. Mais comme tu le disais, au départ, ça n'a pas été évident. Hein, tu disais que certains disaient le marché est trop gros, ou tu n'es pas forcément assez différent de ce qui existe déjà, etc. Enfin bref. Et ben, moi, je connais un peu le sujet aussi, hein, parce qu'on se connaissait même avant Isaïe, et je connaissais bien par Isaïe. Et même Isaïe n'a pas voulu forcément investir tout de suite, hein, de ce que je crois. C'est-à-dire qu'il y a aussi des entrepreneurs, des VC, comment ?
Si, si, Isaïe, oui. Mais d'ailleurs, je te remercie parce que c'est toi qui m'as présenté Jean-David.
Oui. Donc j'avais présenté Jean-David, mais bon, en tout cas, il voyait un potentiel. Mais il y a souvent, les VC reçoivent quelqu'un et puis ils réfléchissent un peu et puis ils voient si effectivement ce qui a été dit se retrouve dans la réalité. Et mais alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu es content de tes investisseurs ? C'est difficile de dire non, oui, mais ça arrive hein, parfois.
T'imagines.
Est-ce que face à des crises ou autres, est-ce qu'ils t'accompagnent ? Est-ce qu'ils servent à quelque chose ou est-ce qu'ils servent à rien ? Ils peuvent ne servir à rien qu'à apporter de l'argent. Ouais. Quel est le type de relation que tu as ? Sachant qu'on aura une question d'un de tes investisseurs ensuite en surprise.
Bah, en fait, ce qui est amusant, c'est qu'on a toujours eu, je pense, cette vision ambitieuse. Tu parlais du marché des CS2I, de transformer les choses, etc. avec mon associé Hugo. Et en même temps, on avait cette... on ne pensait pas, je pense, comme les entrepreneurs depuis quelques années. On se disait, voilà, il faut qu'on bootstrap le truc, lever de fonds, on verra. Tu vois, quand j'étais venu te voir, c'était plus par networking. Et puis tu m'as dit, tiens, va voir Jean-David. Et Jean-David, probablement, ce qui l'a surpris, enfin, je sais qu'il me l'a dit, c'est la première fois que je suis venu le voir, c'était pas... alors que tout le monde vient le voir pour lui demander des fonds, c'était, non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça. C'est ton réseau d'entrepreneurs que tu as derrière et autant de clients potentiels pour moi. Et je venais le voir comme un catalyseur de clients potentiels. Et c'est peut-être ça qui l'a pris à contre-pied, parce que d'habitude, tout le monde vient, on va dire, se prosterner devant lui. Et je suis venu lui demander plutôt de m'ouvrir son réseau. Ça l'a tellement surpris qu'il a dit non, mais c'est pas ça qu'il te faut, c'est investir. Et j'étais là, bon, okay, mais je sais pas si c'est le bon moment. Et finalement, ça s'est évidemment fait après.
Il a peut-être été séduit aussi, parce qu'il a compris que tu étais un vendeur.
Peut-être.
Et qu'il y aurait du business derrière. Bah écoute, on a une question, a priori, tu te doutes peut-être de qui, on en parle beaucoup, mais c'est justement une question de Jean-David Chamboredon, on l'écoute.
Vous avez un message.
Oui Vincent, c'est Jean-David, une petite question pour toi. Malte fait partie des futures licornes ou centaures de la French Tech. Licorne voulant dire une valorisation supérieure à 1 milliard d'euros. Centaure voulant dire un chiffre d'affaires net supérieur à 100 millions d'euros. Donc la question est, tu préférais une licorne ou un centaure ?
On reconnaît bien Jean-David là, sur les chiffres et sur les... question simple, et puis j'aime bien que le terme centaure arrive de plus en plus sur les marchés. Clairement centaure parce que, un, c'est quelque chose qu'on peut contrôler, c'est-à-dire c'est notre chiffre d'affaires. La valorisation, c'est quelque chose qui est fait par le marché, par l'extérieur. Et puis ça... Quelque part, Centaure, je crois qu'il y en a 150 dans le monde, dans les entreprises tech financées par le capital risque. Licorne, il y en a 1000. Donc, je ne sais pas, ça fait 6 fois moins. Donc, quelque part, c'est plus rare. Et je pense que tu n'es pas forcément Centaure si tu es licorne. En revanche, si tu es Centaure, tu es à peu près sûr d'être licorne. Donc, on n'est pas forcément licorne, peut-être next unicorn. Il y a un prix qui s'appelle comme ça ce soir à Vivatech. Et Centaure, on le sera l'année prochaine. Donc ouais, c'est un gros objectif pour nous.
Oui, bah c'est vrai que on sait qu'on est dans une période un peu de crise, hein, donc la valeur des licornes ou des plus grosses capitalisations boursières ou hors capitalisation fait qu'il y a un peu de tension et que c'est peut-être en train de s'éroder. Donc il y avait une question sous-jacente derrière celle de Jean-David, hein, qui est dans ce contexte peut-être un peu de bulle internet qu'on a connu depuis 2 ans où il était plus facile pour les investisseurs, il suffisait d'enchérir et puis les tours se succèdent et donc la valeur ne correspond pas forcément à une réalité économique mais plus à une situation de marché financier. Et là, comme d'un seul coup, il y a des effondrements de valeur, Facebook a été divisé par deux, hein, en termes de valeur quand même. Donc on est dans un marché qui va se poser des questions pendant 18 mois. Derrière, ça veut dire voilà, le plus important, c'est pas d'enlever de l'argent, c'est de gagner de l'argent avec ses clients, parce que ça va durer.
Oui, non, mais je pense que c'est assez sain, finalement. Alors, moi, je ne suis pas un jeune entrepreneur. J'ai vu d'autres choses avant. J'ai commencé ma carrière, tu vois, voilà, juste après 2000. J'étais déjà dans le monde de l'Internet et start-up en 2008. Donc, j'ai vu ça avant. Puis, tu parlais de notre board. Le board, très honnêtement, au départ, moi, je le voyais juste comme du financement. Hein. C'est une banque, c'est des gens qui t'amènent de l'argent. Et vraiment, aujourd'hui, je le vois totalement différent. C'est des gens... C'est marrant d'ailleurs, souvent des jeunes entrepreneurs te demandent mais qu'est-ce qu'ils te demandent, est-ce que ça te demande beaucoup de boulot? Je leur réponds, c'est pas eux qui nous demandent du boulot, c'est moi qui leur demande de faire du boulot. Donc Jean-David, c'est quelqu'un que, comme tous nos board members, qu'on sollicite. Donc tout l'enjeu, c'est d'avoir un board et des investisseurs avec des compétences et des réseaux différents pour les solliciter, pour t'amener des choses. Donc finalement, avec ce board, on a travaillé depuis plusieurs années maintenant sur le fait d'avoir des unit economics, comme on dit maintenant, qui sont très solides. Malte est une boîte qui n'a pas besoin de faire des dizaines de milliards pour commencer à gagner de l'argent sur chaque transaction, comme on a pu le voir dans certains modèles B2C un peu compliqués. Donc on est assez solide là-dessus, donc on se sent à l'aise. On n'est pas une entreprise qui burn énormément d'argent qui chaque mois, chaque année. Donc on a besoin de continuer à se financer parce qu'on a une croissance de 100% par an. Donc on investit sur lancer de nouveaux pays, etc. Mais on est sur un business qui est soit profitable dans certains pays, dans certaines activités, soit proche de la profitabilité. C'est nous qui jugeons à quel point on veut aller plus vite, en fait.
Eh bien, écoute, tu nous proposes une super transition. Tu évoques l'international. On a une question de notre partenaire France Digital et de sa présidente, Maya Noël. On l'écoute.
Vous avez un message.
Hello Vincent. Aujourd'hui, la communauté de Malte est présente dans plusieurs pays en Europe. Pour tous les entrepreneurs qui écoutent l'émission, quel serait ton conseil pour bien réussir son internationalisation? Et aussi, pourrais-tu nous partager ton pire souvenir dans l'ouverture d'un de tes pays comme l'Allemagne ou l'Espagne?
Ouais, facile. Alors, l'internationalisation, je pense que c'est dur. Je pense que c'est dur pour n'importe quelle boîte. Je pense qu'il faut y aller relativement rapidement, là, pas trop rapidement, parce qu'il faut être assez solide quand même, avoir un produit, etc., un product market fit. Mais ensuite, assez rapidement et peut-être à faible coût au départ, parce que tu sais que les premières années, tu vas te planter, la première ou la deuxième année. Mais je pense que c'est vrai, tu parlais de Facebook, Google, etc., qui sont évidemment des énormes succès. Quand tu regardes quand ils ont commencé, même en France, c'était une petite équipe pendant, je sais pas, peut-être 2-3 ans. Ils n'arrivent pas avec la grosse armada tout de suite. Donc il y a un moment de compréhension, de digestion du marché où tu auras beau faire toutes les études de marché que tu veux, il faut aller sur le terrain. Et là aussi, alors aller sur le terrain, ça veut dire... On a des personnes clés de la boîte qui étaient là au début de la boîte, dont moi, tu vois, là c'est pour tu parlais, moi je suis à Munich. Je suis allé à Munich parce que j'avais parlé avec des entrepreneurs qui sont plantés en Allemagne ou qui ont réussi en Allemagne. C'était un petit échantillon, mais je me suis rendu compte que ceux qui ont réussi, ils étaient sur place. Et être sur place, ça veut dire que tu fais peut-être un peu de meilleurs choix sur les recrutements. Tu peux créer de la confiance auprès des clients, tu peux créer de la confiance, tu peux... Alors l'Allemagne, particulièrement, c'est un marché où il faut créer énormément de confiance et c'est un marché où il n'y a pas de chômage, c'est hyper tendu. Et tu as besoin de montrer aux gens que tu vas recruter que tu ne vas pas en faire un satellite office, tu vois, ce ne sera pas juste un petit bureau comme ça, mais que ça va être ton marché principal parce que c'est la plus grosse économie en Europe et que tu vas y aller à fond. Donc c'est pour ça que j'y suis allé. Ensuite, pire souvenir... Mais en fait, c'est simple, c'est début 2020, début du Covid, on a commencé à regarder nos coûts et puis on s'est dit sur l'Allemagne, on est mal parti en fait. On est mal parti avec la mauvaise équipe. Ils avaient démarré les choses, il y avait beaucoup de bonnes choses qui avaient été faites, mais il y a une bonne partie de l'équipe qui s'est tout de suite structurée avec un management très fort qui n'était pas du tout la culture qu'on avait. Donc moi, j'y suis allé, mais j'y suis allé un peu tard. Ils ont démarré avec... Voilà, quelque chose qui ne correspondait pas à nos valeurs, à notre culture. Et j'ai dû sortir les trois managers de l'équipe. Donc forcément, c'est toujours un peu compliqué. Et repartir de zéro et de redevenir le country manager par intérim là-bas.
Mais cette dissonance sur la culture, elle se projetait aussi dans le produit qui était délivré ou
Pas tant que ça. On a la chance d'être sur un marché B2B assez, je dirais, rationnel. Alors, il y a des choses à adapter au niveau du cadre légal. Il y a des choses, effectivement, là aussi. Tu auras beau faire toutes les études de marché. Sur l'Espagne, on a compris, je pense, au bout de 2 ans, qu'il y avait des histoires de taxes, de facturation qu'on gérait mal et qu'on a dû revoir tout notre modèle. Mais le produit en lui-même, on est moins, si tu veux, dans la situation d'un, je sais pas, Doctolib qui arrive en Allemagne où l'assurance santé, les médecins, etc. fonctionnent totalement différemment. Tu ne dois pas refaire tout le produit, mais tu dois refaire une grosse partie.
Alors, je vais en profiter pour une transition d'une question d'un de tes associés, Quentin. Alors, j'espère ne pas mal prononcer son nom. Bah, d'ailleurs, je peux te laisser
le
faire. Qui est aussi le CEO de Malte. Je te propose de l'écouter.
Vous avez un message.
Je suis Quentin, le CEO de Malte. Et donc, Vincent, ma question est la suivante. Si tu devais être freelance pendant 6 mois, où est-ce que tu t'installerais et quel métier tu ferais ?
On reste un peu dans l'international comme ça.
Ah, bonne question. Super question. Je m'installerai à la limite, peu importe la localisation. Ce que je sais, parce qu'on le voit chez nos freelances depuis longtemps, c'est que la localisation, même si je suis, on va dire, à Bordeaux, je devrais faire l'effort de venir à Paris régulièrement si mes clients sont parisiens. En fait, c'est un peu illusoire de croire. J'ai jamais cru au concept de digital nomade. Où tu peux bosser depuis la Thaïlande et pour travailler pour des clients parisiens. Ça marche un moment, mais c'est très difficile.
Mais ça veut dire que tu ne crois pas au métier de freelance, alors ?
Non, pas du tout. C'est non, justement, c'est que freelancing, je pense que beaucoup de gens, et c'était un peu le modèle des plateformes dont on parlait au départ, l'ont associé avec offshoring, avec aller chercher quelqu'un qui travaille n'importe où. C'est pas vrai. C'est-à-dire que même s'il va travailler 90% de son temps chez lui, ou depuis un coworking, il va rencontrer... C'est des gens qui sont de la creative class. Et je pense que la créativité, ça se fait aussi en rencontrant les personnes. Tu vois, on est tous chez Vivatech, c'est plein, et les gens ont besoin de ça.
Mais là, un événement, c'est particulier. Mais je voudrais là insister un peu poil à gratter sur ce côté-là, parce qu'il y a aussi une tendance de jeunes qui se disent « Tiens, je vais aller m'installer à Biarritz, c'est plus cool, je suis plus près de la mer, ambiance Californie. » Il y en a même qu'on connaît qui sont allés à Bali, qui disent « Voilà, je change de vie. » By the way, je fais du digital, j'aurais pas de problème pour trouver un job, hein, puisque c'est un marché qui est plutôt en déficit. Donc toi, tu dis, voilà, y a pas ce truc possible qui est de dire, je peux vraiment travailler n'importe où, en dépendant des questions de décalage horaire, parce qu'à la rigueur, on s'adapte. Ouais. Et du coup, quelle est la culture d'entreprise qui se crée à travers, un, le freelance, et deux, le remote, qui sont deux aspects parfois combinés, parfois séparés.
Non, mais ce serait faux de dire qu'il n'y a pas certains métiers qui peuvent se faire totalement à distance. Toutes les situations sont différentes. C'est-à-dire que si en plus tu as travaillé dans un métier, tu as une certaine seniorité, tu as une seniorité dans une entreprise, tu la connais, tu continues à travailler depuis un autre endroit, c'est beaucoup plus facile que si tu démarres dans une entreprise ou tu démarres dans un métier. Ensuite, ce qu'on observe, nous, parce que justement, on est des observateurs de ça en connaissant les freelances, c'est que tu as besoin vraiment des deux. Je vais te donner l'exemple de nous, notre propre fonctionnement interne. Il y a 9 ans, quand on a commencé, je ne comprenais pas pourquoi les entreprises demandaient à leurs employés d'être tout le temps au bureau. Ça n'avait pas de sens. Donc, on a toujours eu une culture de confiance et une culture de remote où les gens pouvaient travailler. Demain, ils disaient sur Slack, je suis chez moi et je travaille de chez moi. On a créé la boîte avec Hugo, qui était lui à Lyon. Moi, j'étais à Paris. Et en fait, on s'est rendu compte assez rapidement sur Lyon. On a commencé à recruter des développeurs. Et puis ces développeurs nous ont dit, on a vu le chemin inverse, ils nous ont dit une fois par semaine il nous faudrait une salle de réunion, et puis ce serait bien quand même si on avait un endroit où certains d'entre nous on aimerait travailler dedans, on aimerait laisser nos ordi, etc. Et aujourd'hui on se retrouve à Lyon avec une équipe de 25 personnes et un bureau pour 25 personnes, parce que le jour où ils viennent, peut-être qu'ils viennent assez peu, mais le jour où ils viennent, ils veulent tous être là parce qu'ils veulent déjeuner ensemble, etc. Donc je crois que c'est pas la fin du bureau. Je crois que ce n'est pas la fin des rencontres. Tu vois, la semaine dernière, on était en off-site à 400. On a besoin de ça. On a besoin des deux. Alors, après, suivant le métier, suivant plein de choses, le niveau de rencontre et le niveau de remote va évoluer. Mais ça, il faut faire confiance aux gens, il faut faire confiance aux équipes. Mais je ne crois pas forcément aux extrêmes, aux positions extrêmes de c'est soit tout l'un, soit tout l'autre.
Tu parles des équipes, je veux revenir sur les freelances. On parle souvent de la solitude de l'entrepreneur, même parfois quand il est associé. Quid de la solitude des freelances et quel est le regard, voire les actions de Mal pour participer à ce sujet?
C'est un super point. C'est d'ailleurs, moi je recommande souvent aux freelances. Alors, tu as beaucoup de freelances qui travaillent à temps partiel ou temps plein chez leurs clients. Mais je leur recommande souvent d'aller en coworking. C'est un investissement, mais c'est super important, je pense, de continuer à avoir du monde, parce que c'est facile de se désociabiliser, tu vois. La solitude, en fait, nous, au début, dans ces cafés que j'évoquais, les freelances nous disaient, voilà, mais je leur demandais un peu qu'est-ce qu'ils attendent de nous. Première chose, trouver des nouveaux clients. Je ne suis pas forcément commercial, je veux étendre mon réseau, donc trouver de nouveaux clients, marketplace, normal. Deuxième chose, sécuriser mes paiements et avoir des paiements rapides. Et troisième chose, effectivement, il y avait quelque chose autour de l'isolement. Et là, on a fait énormément, c'est-à-dire que nous, on fait plus de 300 événements par an. Alors, soit nous-mêmes, soit via des ambassadeurs de la communauté qui les organisent, parce qu'on ne peut pas forcément faire un événement dans toutes les villes, etc. Mais on fédère cette communauté. Et ça, c'est super important, et je pense que ça a été une grande partie du succès aussi de faire se rencontrer les gens entre eux.
Oui, parce que c'est aussi une manière pour eux de se connecter, de se créer un réseau et de s'auto-apporter des leads.
Complètement.
Moi, j'aimerais bien qu'on se projette dans le monde d'après, parce que je sais que Vincent a des super idées autour de cette question du Future of Work, parce qu'on parle du Future of Work, et vers quel monde on va. I have a dream. Tu vois, c'est Martin Luther King qui t'invite à te projeter. Frédéric Mazzella nous disait dans un précédent épisode que c'est important d'avoir du rêve. Donc, j'imagine qu'il y a des rêves qui motivent ta passion. Bon, on se connaît un petit peu, donc je sais que tu es quelqu'un de passionné. Tu es aussi quelqu'un d'assez cérébral, donc tu réfléchis aussi à ces questions de société. Et j'aime bien le citer, donc ce n'est pas la première fois que je cite le We Crashed, qui est une série qui parle de WeWork. C'est aussi super. Le Future of Work. On aurait pu dire aussi qu'une vision de Malte, ça pourrait, pourquoi pas, être de créer des espaces de coworking qui hébergeraient des freelances. Et avoir un modèle économique complètement révolutionnaire où c'est plus les entreprises qui logent les salariés, c'est pourquoi pas Malte qui aurait des bureaux pour héberger des freelances qui du coup ne seraient plus isolés, mais pas forcément étant dans leur entreprise, mais entre freelances. Enfin bref, c'est une idée complètement absurde, mais c'est pour dire quel est le monde dans lequel tu te projettes et tu me projettes, et j'aurai une petite, un petit clin d'œil à faire après.
Bah en fait, nous, on a un mot-clé, et ça fait partie de la mission de l'entreprise, c'est aussi notre claim, c'est autour du choix. Et je pense que le sujet, ce n'est pas tant d'être libre, pas libre, remote, on-site, etc. C'est d'avoir le choix et que ce choix, il soit différent suivant les personnes, adapté à qui tu es et adapté aussi à ton moment de la vie. L'enjeu pour nous, c'est que quelqu'un qui fait ce choix justement à un moment de devenir freelance, qu'on puisse l'accompagner, qu'il puisse réussir dans sa vie de freelance, se concentrer sur son métier et pas se concentrer sur aller chercher des clients, être payé, etc. Et c'est vrai aussi côté client. Tu vois, les clients avant, c'était des gens qui allaient voir leur DRH, leur département achat, et on leur envoyait un consultant qu'ils n'avaient pas choisi. Et pouvoir faire en sorte que les gens puissent assumer, faire leur propre choix, c'est super important. Et pour ça, tu parlais, tu vois, de qu'est-ce qu'il fallait peut-être changer aussi dans la réglementation et autres. Je pense qu'il y a des petites choses pour faire en sorte que demain, on puisse passer à avoir le choix d'être soit salarié, soit freelance. On passe de l'un à l'autre facilement. Tu vois, t'as tout ce qui est santé, tout ce qui est retraite, tout ce qui est formation, puisse te suivre hyper simplement. Voire faire les deux en même temps, tu vois. Pas s'opposer. Il y a certains grands dirigeants de grandes boîtes du CAC 40 qui sont assez souvent, d'ailleurs... je les interpelle sur cette idée, tu vois, de dire, mais vous pourriez aussi permettre à vos employés, qui des fois ont beaucoup de vacances, RTT, etc., de faire du freelancing. Mais souvent, le contrat de travail l'interdit. Ils sont globalement souvent assez intéressés par l'idée, parce que c'est quelque part, c'est une ouverture pour des gens qui sont depuis 15 ans dans la même boîte. Les employés ont envie, et souvent, c'est le middle management qui n'a pas envie de
et
ça.
Est-ce que là-dessus, c'est en vrai une manière de conserver des talents leur permettant de la liberté en dehors de l'entreprise, ou est-ce que c'est leur donner ce premier pas et ce premier finalement coup de boost pour se dire en fait je peux gérer ma vie tout seul?
Je pense que c'est accepter de toute façon un monde où tu sais, dans le code du travail français, du moins, il y a cette notion de subordination. Je pense qu'on va de moins en moins vers ça, qu'on soit vers freelance ou salarié. Il faut qu'on puisse accepter un monde où justement les employés, les freelances puissent faire leur propre choix avec le monde du travail. Donc si j'avais un rêve, oui, c'est ça, c'est que je veux pas être idéaliste, mais le monde du travail, aujourd'hui, on a beaucoup moins cette dichotomie. Je crois pas d'ailleurs au terme work-life balance. Work-life balance, ça veut dire que tu opposes les deux. Et c'est plus vrai, on travaille de n'importe où, le perso vient dans le pro parce que tu vas recevoir un appel de ta copine, tu vas réserver tes billets de train perso, à l'inverse.
Alors,
tu vas faire du pro dans la...
Là, je ne suis pas d'accord, donc je veux exprimer une opinion différente parce qu'on a le droit de débattre. En fait, je comprends l'expression, ce que tu veux dire, c'est un reflet d'une réalité, mais je crois aussi, par quelques autres études que j'ai pu lire, qu'il y a de la souffrance autour de ça qui parfois... Si on considère que le truc cool, c'est de mélanger la vie et le travail, Il se trouve que quand on lit un peu de sujets hein, autour de la psychologie, ça peut provoquer des problèmes, des pas limites. Alors, on s'est moqué de la France, et à un moment donné, il y avait cette espèce de projet de loi, dire on n'a plus le droit d'envoyer des emails après 19h. Je ne parle pas de ces aberrations-là, mais je pense quand même qu'il y a une notion quand même de... quand tu es entrepreneur et que tu es passionné, parfois tu peux être amené à sacrifier ta famille, ce qui est dommage, mais on a vu beaucoup d'entrepreneurs qui étaient assez équilibrés, hein, je pense... notamment à Benjamin Guéniaud d'Ornicard, bah, voilà, la priorité c'est ses enfants et il a réussi à organiser tout ça.
Et du coup, ça revient à parler quand même. Qui regrette.
Enfin, ouais. Mais ça arrive quand même finalement à reparler de work-life balance. Donc moi je voudrais pas qu'on cède, et je sais que c'est pas ce que tu veux, hein, qu'on cède à une mode qui dirait que voilà, parce que maintenant tout est dans tout et que le digital c'est partout, etc.
Mais tu as totalement raison. Moi-même, je m'applique, tu vois, d'envoyer s'il y a un message sur Slack ou un email, si jamais j'ai une idée le week-end, et je ne travaille pas normalement le week-end, sauf au début, mais maintenant, voilà, on a une certaine taille. Je mets, tu sais, cette fonction qui permet que le message soit envoyé le lundi à 9h. Ouais. Je ne veux absolument pas déranger les gens et les faire penser au boulot le week-end. Je pense que c'est très important de couper, très important de couper pendant les vacances, etc. Non, ce que je dis dans cette opposition work-life, ouais. Comme si l'un était positif, l'autre était négatif.
Là, je suis d'accord. Ouais.
Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que tu te rencontres, je pense, avec... On a tous les trois un certain âge, on avait vécu. Tu te rends compte que ta carrière est aussi ta vie. Tu vois, ta vie professionnelle est aussi ta vie. C'est aussi là que tu as rencontré énormément de gens qui, finalement, sont devenus des amis. Tu te rends compte même parfois, plus tard, que ces gens, en fait, sont tes amis parce que tu t'es dit, mais non, ça, c'est des gens que tu vois dans le monde dans le cadre du boulot. Mais finalement, tu les vois tout le temps, tu vois. Donc, je pense qu'avoir cette vision positive du travail, c'est ça que je voudrais plutôt mettre en avant.
Et il y a aussi, Vincent, ce que tu voudrais pour la France, pour le monde. On te propose de changer de casquette et de passer d'entrepreneur à président.
Française, français.
Le micro, le pays est à toi. Que dis-tu, que fais-tu ?
Ouais, bah je vais continuer à répondre à la question de Quentin qui me demandait ce que je ferais en freelance. Moi, je pense que si j'avais fait un autre métier, j'aurais travaillé comme UX, UI designer. Et pourquoi je te parle de ça ? Parce que je pense qu'il y a un sujet, c'est très simple, mais qu'on devrait travailler à mieux expliquer les choses aux gens. Je te donne un exemple. Tu vas passer un mois à l'hôpital. Tu sors de l'hôpital, ça m'est arrivé dans le cadre plutôt de mes enfants. Tu n'as rien payé, on te demande rien. Tu donnes ta carte vitale. Tu as quelque chose d'assez extraordinaire et un miracle français. Et on devrait pouvoir te montrer, mais positivement, voilà ce qui a été fait. Voilà la facture. Tu vois, le même exemple avec l'école.
Et on te l'offre.
C'est gratuit. It's on us, tu vois. C'est gratuit. Et là, tu te rends compte, parce qu'il y a, je pense, une tension dans ce pays qui est du fait que, voilà, on a la dépense publique la plus importante au monde, donc on paye énormément d'impôts. On a beaucoup, on regarde ça. Moi, j'ai vécu longtemps au Mexique. J'ai vu des gens qui vendaient leur maison, si tu veux, parce que leur père était hospitalisé. On n'a pas à faire ça. Mais on ne se rend pas compte de ce qu'on a. Et je pense que, je te donnais l'exemple de l'école, pareil, à la fin de l'année scolaire, voilà, ça coûtait 12 000 euros. Je pense que c'est à peu près ça, tu vois. Et ça n'a rien coûté, ça t'a rien coûté, c'est extraordinaire. Et ce genre de choses, si tu veux, de mieux expliquer les choses, de mettre de l'UX, donc UX dans le sens, tu vois, user experience, dans tout ce que fait l'État, moi je mettrais effectivement un responsable de UX au sein de l'État.
Dans des réflexions autour du revenu universel, parce qu'il y a plein de réflexions et de visions autour de ça, mais il y avait cette réflexion de dire, ben justement, on va inclure dans ce revenu universel ces sujets de santé, de scolarisation, etc.
Bah derrière, il y a cette notion de simplification que d'ailleurs a essayé de pousser un des candidats à la présidentielle cette année, candidat particulier, puisque aussi philosophe Gaspard Koenig, et son projet, son parti s'appelait Simple. Et il y avait des bonnes idées, je pense qu'il y a des bonnes idées à conserver dans cette idée de, effectivement, bah, le revenu universel, c'est comment on peut faire plein de choses qui font que, au lieu d'avoir plein d'aides avec énormément d'administrations qui gèrent ça, et finalement une complexité qui crée de la tension, parce que si tu n'as pas tu n'es pas préparé, tu n'as pas le niveau pour t'adresser à cette administration, remplir les papiers, etc., tu vas en souffrir. Nous, en tant que Français, on en souffre tout. L'administration en souffre. Et là où on peut simplifier, en fait, il faut le faire, à mon avis.
Gaspard Koenig, c'est effectivement un économiste libéral. Et souvent, le mot libéral est mal compris ou mal connu. Et donc, quand on parle d'ultra-libéral, on montre le méchant marché qui va plutôt broyer les plus faibles. La réalité, c'est que l'origine du libéralisme, et c'est important pour nos secteurs de la technologie, c'est plutôt effectivement de simplifier, c'est-à-dire d'avoir moins de lois plutôt que plus de lois. Et c'est, ça vient de Montaigne, hein, l'esprit libéral, c'est-à-dire voilà, s'il y a des lois, vous pouvez supprimer, passer plus de temps à en supprimer qu'à en faire des nouvelles, parce que ça devient illisible. Et on peut créer une fracture législative d'une certaine manière avec des lois trop compliquées. Il y a même des gens qui sont en souffrance administrative à force de devoir essayer de pouvoir être conforme, devenir auto-entrepreneur. Là, en l'occurrence, c'est relativement simple. Mais avant d'être ça, avant le statut d'auto-entrepreneur, et on s'était battu pour ça, pour développer les freelances, c'était pas du tout évident de créer son entreprise, créer sa SARL, le statut du RSI, ça a été un cauchemar pour beaucoup de gens, donc faut pas oublier ça.
Moi aussi, je voudrais créer une fracture entre la partie 1 et la partie 2 de 40 nuances de Next, le 40 nuances de Vincent, et donc l'homme derrière l'entreprise, ça commence tout de suite.
40 nuances de Next.
The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.